Pour le message de ce matin, frères et sœurs, je vous propose un passage tiré de l'Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15, les versets 22 à 25. Exode 15, 22 à 25. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le roi exalté, élevé au-dessus des cieux, comme nous venons de le chanter. Tu es Seigneur et ta vérité règne, règnera et ne cessera de régner. Et c'est ta parole que nous voulons à présent entendre. Seigneur, dispose nos cœurs, nos esprits. Par ton Saint-Esprit, rends nos cœurs fertiles, disponibles et disposés à recevoir ta parole comme cette bonne terre. Oui, Seigneur, nous voulons que ta parole habite abondamment en nous. Alors ce matin, fais-nous entendre ta parole. Nous te confions aussi nos enfants. Seigneur, que ta parole aussi résonne au fond de leur cœur. Seigneur, qu'ils s'en approprient, qu'ils se saisissent de ta parole et qu'elle produise dans leur cœur la foi, la vraie foi en Christ, de sorte que devenu grand, qu'ils ne se détournent point du chemin que tu as tracé pour chacun d'entre eux. Nous te les recommandons ce matin. Bénis chacun de nous, petits et grands, à travers notre écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Exode 15, versets 22 à 25. Lisons au nom du Seigneur. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ?» Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des commandements. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons, en tout cas sous nos yeux, l'un des récits, je dirais, les plus passionnants de toute l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Israël. Après 400 ans d'esclavage, ils ont échappé aux armées de Pharaon, traversant les eaux de la mer Rouge, en tout cas comme s'ils marchaient sur la terre ferme. Alors, Moïse et les Israélites chantent pour le Seigneur ce chant. Exode 15, versets 1 et 2. « Je veux chanter pour le Seigneur. Il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il m'a sauvé, il est mon Dieu. Je veux chanter pour lui. Il est le Dieu de mon Père. Je veux chanter sa grandeur. » Ces paroles, effectivement, sont tirées de ce qu'on appelle le premier cantique de la Bible, un cantique qui exprime la joie qui remplit le cœur de tous les rachetés. Il célèbre la gloire de celui qui a desséché la mer Rouge et qui a fait des profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés, nous dit Ésaïe 51, verset 10. Mais ce chant, frères et sœurs, proclame aussi ce que Dieu va faire encore. Et pas seulement ce qu'il a fait, mais aussi ce qu'il va faire encore, car notre Dieu est aussi intéressé par le futur. En cela, Myriam, la sœur de Moïse, ainsi que d'autres femmes qui ont composé donc ce chant, étaient vraiment animées d'un esprit prophétique. Elles ont prophétisé dans ce chant quels seront les fruits, oui, quels seront les fruits de la victoire. La victoire finale. Dieu s'est préparé un héritage. Voilà un fruit. Dieu s'est préparé un héritage. Dieu s'est préparé une habitation. Dieu s'est préparé un sanctuaire. Verset 17. Et il régnera à toujours et à perpétuité, ce Dieu-là. Verset 18. Mais que s'est-il passé dans la suite, juste après cet événement hors du commun? Le verset 19 nous enseigne que c'était vraiment un grand, mais vraiment un grand triomphe suite à une délivrance miraculeuse. Alors que Moïse tenait son bâton au-dessus, les enfants d'Israël ont miraculeusement marché à sec au milieu de la mer. Toute la force militaire de Pharaon a été bannée. Pas un seul soldat égyptien n'avait survécu. Pas un seul. Je suis sûr que les Israélites pensaient en ce moment-là que tous leurs problèmes étaient terminés. Dieu contrôlait la situation et le reste de leur voyage serait facile et sans histoire. Ils n'étaient pas préparés à ce qui les attendait, à commencer par leur rencontre avec les eaux amères de la vie. C'est ce qui arrive aussi à certaines personnes après leur conversion, après leur délivrance du système de ce monde. Dans l'Égypte, justement, on est le symbole. Puisque je suis converti à Christ et que Dieu contrôle désormais la situation de ma vie, mes problèmes sont finis. Voilà ce qu'on entend et peut-être même ce qu'on a dû enseigner. Viens à Jésus et tu n'auras plus de problèmes. Alors qu'après la conversion, la Bible nous enseigne que nous entrons dans un combat spirituel face à l'ennemi, Satan. Certes vaincu, mais qui a encore une capacité de nuisance, mais aussi face à nous-mêmes, un combat face à nous-mêmes, car Dieu voudrait aussi nous délivrer du monde qui est en nous. Étant donné que nous avons été dans le monde, donc en venant à Christ, nous venons à lui avec le monde qui est en nous, avec la semence du monde, par rapport à ce que nous avons entendu dans le monde, par rapport à ce que nous avons fait dans lui, ce sont les semences. Et donc nous venons à Christ avec la semence du monde. Donc le combat se passe aussi en nous. Et il faut nous délivrer de ce qui appartient au monde et qui se trouve en nous. Et c'est aussi un combat. Donc, après la traversée de la mer Rouge, voilà ce qui s'est passé. Ensuite, Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après, dit le texte, 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Le peuple murmura contre Moïse en disant, mais que boirons-nous? Après seulement trois jours de voyage dans le désert, un désert chaud et poussiéreux, j'imagine, leur réserve d'eau était sérieusement épuisée. Et lorsqu'ils ont aperçu au loin une lueur de l'eau de cette mare appelée Mara, alors j'imagine le sourire sur certains visages, mais quelle déception lorsqu'ils se sont baissés pour voir. L'eau était si amère qu'ils n'ont pas pu l'avaler. Le cantique glorieux, voyez, de la rédemption chanté de l'autre côté du rive de la mer Rouge, c'était tu. Comment une telle chose pouvait-elle leur arriver? Dieu ne venait-il pas de leur accorder une délivrance et une victoire extraordinaire? Frères et sœurs, nous apprenons ici une vérité essentielle, que le résultat même de la rédemption accomplie que la délivrance, le résultat de la délivrance de la puissance de Satan n'est pas d'abord Canaan. Avant d'arriver à Canaan, nous devons d'abord passer par le désert. C'est d'abord le désert, immédiatement le désert. Tant que les fils d'Israël séjournaient en Égypte, qui est le symbole du monde, ils ne pouvaient pas connaître les expériences du désert. Et tant qu'ils n'étaient pas délivrés de la puissance de Pharaon, qui est le symbole de Satan, il n'y avait pas de combat. Il n'y avait pas de combat. D'ailleurs, comment ils auraient pu lutter contre Pharaon? Comment? Ils n'ont même pas essayé en Égypte de lutter contre Pharaon. Ils les avaient asservis, tellement asservis, qu'ils soupiraient sous le joug dur de l'esclavage. Ils devaient d'abord être amenés à Dieu avant de pouvoir livrer ces combats. Et il en va de même pour ceux qui sont encore dans le monde. Ils n'ont aucune force pour lutter contre Satan. Tant qu'ils sont encore ses esclaves, ou tant qu'il y a quelque chose justement de Satan en eux, même après leur délivrance. C'est Jésus qui a dit, oui, Satan qui vient, mais il peut venir parce qu'il n'y a rien en lui. Il n'y a rien en moi qui lui appartient. Il nous faut d'abord être délivrés de sa puissance avant de pouvoir le combattre. Or, le combat, frères et sœurs, est une de nombreuses expériences que nous faisons dans le désert. Le combat, le chapitre 17 d'Exode, justement, nous enseigne, hein, en tout cas à ce sujet. Mais, comme nous venons de le dire, la rédemption nous conduit, en tout cas d'un certain point de vue, directement au désert, mais sans que notre salut soit pour autant incertain, compromis. Bien au contraire, notre cheminement au travers du désert est plutôt la preuve que nous sommes bel et bien un peuple de racheté. Les Israélites ne pouvaient pas faire les expériences de Mara ou d'Élim tant qu'ils demeuraient en Égypte. Si seulement nous en étions plus conscients. Il est vrai que la traversée du désert entraîne une quantité d'épreuves et d'humiliations. Mais ces épreuves et ces humiliations nous montrent simplement que nous ne sommes plus en Égypte et que Dieu nous a amenés à lui. Dans sa miséricorde, il est là. Il marche avec nous dans le désert et nous porte, comme nous dit la Bible, sur les ailes d'aigle, d'ailleurs qui ne connaissent aucune, mais vraiment aucune défaillance. Dans les circonstances les plus adverses, il nous fait expérimenter sa bonté, sa présence et son secours. Pour que nous puissions réaliser que ce sont là des expériences particulièrement précieuses, d'ailleurs dont nous ne voudrions même plus nous en passer. Le fait pour l'homme, frères et sœurs, d'apprendre à mieux se connaître, tout en réalisant que la corruption qui touche à sa nature est totale, pleinement totale, est une conséquence inévitable de la marche à travers le désert. Dieu ne peut ni ne veut nous les épargner, ces épreuves. Aussi, il nous conduit selon sa sagesse et son amour dans le désert. Il ne nous dirige pas à les contourner soigneusement, non, mais il nous amène en plein milieu du désert. Il veut nous avoir uniquement à lui. C'est le lieu où nous apprenons à jouir pratiquement de la pureté même de sa grâce, une grâce inexprimable. En tout cas, soyons-en rassurés, frères et sœurs, nous avons beaucoup à apprendre au désert. Quelle situation terrible dans la vie de traverser un désert sans ressources et ne pas trouver d'eau. Cela signifie une mort, mais une mort certaine. Les enfants d'Israël n'étaient pas préparés, je disais, à cette tournure des événements. Mais il y a une personne, une seule, qui n'était pas prise au dépourvu. C'était Dieu lui-même. Frères et sœurs, peu importe le nombre de fois où nous nous sentons pris au dépourvu. Ce qui nous rassure, c'est que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est jamais pris de court. Il n'a jamais été surpris par quoi que ce soit qui le dépasse et le pousserait à agir justement en urgence. Non, Dieu n'a jamais d'urgence. Dieu n'a jamais d'urgence. Dans la mesure où il sait ce qui va arriver avant que la chose n'arrive. Ce qui fait que notre Dieu n'est jamais confronté à une situation pour laquelle il n'a pas de solution. Car si tel est le cas, il ne serait pas Dieu. D'ailleurs, j'ai vérifié que le mot problème ne se trouve pas dans la Bible. Le mot problème. C'est vrai qu'il peut y avoir des situations qui s'apparentent à des problèmes, des choses, mais le mot problème en lui-même ne se trouve pas dans la Bible. C'est pour dire quoi ? Voilà, qu'il n'y a aucun problème auquel Dieu ne peut pas trouver de solution. Le mot problème ne se trouve pas dans la Bible. Dans Ésaïe 46, verset 10, Dieu dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Bon, nous le savons dans Apocalypse 13, c'est Jésus qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Mais quand il le dit, ça ne veut pas dire qu'il est seulement au commencement et à la fin. Ça veut dire qu'il couvre le monde depuis le commencement jusqu'à la fin. Voilà ce que ça veut dire. Oui, il est le commencement et la fin. Face à la déception, le peuple se met à grogner, à murmurer. Alors, que fait Moïse de son côté? Il fait exactement ce qu'il fallait faire. Il commence par prier. Il prie. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel va donner au peuple les lois et commandements et ce fut là que Dieu va commencer à mettre ce peuple à l'épreuve. Lorsque Moïse a ramassé ce bois, il l'a jeté dans l'eau et l'eau est devenue douce. Alors, c'est important de souligner ceci, frères et sœurs, que la Bible, voilà, ne dit pas que c'est le bois qui a rendu l'eau douce. C'est pas le bois qui a rendu. Le bois n'avait rien en lui-même, rien de magique, aucune propriété quelconque pour pouvoir rendre cette eau douce. Mais c'est la puissance. C'est la puissance surnaturelle de Dieu qui était à l'épreuve. Lorsque Moïse a jeté le bois dans l'eau, c'est simplement son acte de foi. Son acte de foi et rien d'autre qui a libéré la puissance miraculeuse de Dieu. L'acte de foi, c'est toujours de cette manière, frères et sœurs, que la puissance miraculeuse de Dieu est libérée dans notre vie. Un acte de foi. Dans une situation d'épreuve, Dieu nous demandera toujours de poser un acte de foi. Et c'est l'acte de foi, une fois posé, qui va libérer la puissance de Dieu pour la délivrance. L'acte de foi est donc la clé qui déverrouille la puissance miraculeuse de Dieu et la rend possible lorsque nous en avons besoin. C'est ce qui s'est passé avec les eaux de Marat. Moïse a jeté le bois et cet acte de foi a libéré la puissance de Dieu qui a transformé les eaux amères en eaux douces. Frères et sœurs, un acte de foi est un acte d'écoute d'abord, un acte de compréhension et ensuite d'obéissance. Il faut écouter, comprendre et obéir. Jésus a dit à l'homme à la main sèche, lève ton bras. Mais elle est sèche, comment je vais la lever? Comment je vais le lever plutôt? Lève ton bras. Mais l'acte de foi était tel que cet homme a soulevé son bras et il s'est rendu compte qu'il avait reçu la guérison. L'acte de foi. Dans Genèse, au chapitre 22, nous connaissons ce récit, verset 2 à 3, Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu où Dieu lui avait indiqué. Abraham venait de poser là un acte de foi en obéissant à Dieu qui demande de lui sacrifier son fils Isaac. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit ceci au chapitre 11, les versets 17 et 19, c'est par la foi. Autrement dit, c'est par un acte de foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et la suite dit, il pensait que Dieu est puissant même pour le ressusciter des morts. Aussi le recouvrait-il par une sorte de résurrection. La foi, frères et sœurs, est d'abord l'œuvre de Dieu lui-même avant d'être notre œuvre. Car quand Dieu parle, il a la foi. Quand Dieu parle, il a la foi que sa parole va s'accomplir. Dans Ésaïe 55, les versets 10 à 11, Dieu dit que la parole qui sort de ma bouche, voilà, ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand Dieu parle, il demande à l'homme compréhension, c'est ce qu'il donne aussi lui-même, et surtout obéissance. Moïse a jeté le bois à la demande de Dieu, et cet acte de foi a libéré la puissance de Dieu qui a transformé les eaux amères en eau douce. Traverser un désert sans ressources et ne pas trouver d'eau, cela signifie, frères et sœurs, une mort, mais une mort certaine. En effet, les trois jours pendant lesquels le peuple a marché dans le désert sans trouver d'eau parlent aussi de mort. Trois jours. L'expression « trois jours » revient plusieurs fois dans les Saintes Écritures. Et souvent, elle est en relation avec la mort. Par exemple, Genèse 22, verset 4, Genèse 40, verset 19, Matthieu 12, verset 40. Et nous devons apprendre à appliquer la mort à tout ce que nous trouvons en nous-mêmes et dans le monde. Nous devons apprendre à appliquer, à considérer ces choses comme étant mortes. Dans sa grâce, Dieu nous a placés par la mort de Christ, qui est le symbole de la mer rouge pour le peuple d'Israël. Il nous a placés dans une position entièrement nouvelle, mais une position parfaite. Il nous a amenés à lui. Par la nouvelle naissance, qui est une mort et une résurrection. Il nous a amenés à lui. Mais s'il nous unit à Christ dans sa mort, s'il nous voit quant à notre position comme mort et ressuscité avec Christ, le but de ses voies envers nous est de nous mettre pratiquement en accord avec cette nouvelle position, que nous puissions véritablement vivre comme étant des gens qui sont passés par la mort, des nouvelles créatures. Selon l'enseignement de l'Épître aux Romains, le croyant est mort tant au péché, chapitre 6, qu'à la loi, chapitre 7. Et l'Épître aux Galates ajoute un troisième aspect, nous sommes aussi morts au monde, Galates, chapitre 6. Nous ne ferons aucun progrès dans notre vie de foi si nous ne nous tenons pas véritablement pour mort au péché. Si nous n'acceptons pas d'une manière pratique la mort comme étant le seul moyen par lequel nous sommes délivrés de l'activité de la chair en nous. Est-ce que nous pensons vraiment croître intérieurement si nous portons continuellement nos regards vers le monde qui a rejeté et qui rejette encore le Christ? L'apôtre Paul voyez la croix de Christ entre lui et le monde, tout au milieu, la croix de Christ. Cela réglait tout pour lui, la croix au milieu. Or, c'est une chose de renoncer de soi-même au monde, et cela est une autre, plus douloureuse peut-être, quand le monde, de son côté, ne veut pas de nous. Oui, le monde nous rejette. Paul connaissait les deux positions. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi aussi au monde. Galates 6, 14. Les fils d'Israël ont dû apprendre qu'en conséquence de leur délivrance hors d'Égypte, le monde était devenu pour eux un désert. Un désert. Et telle est la leçon que nous devons aussi apprendre. Le monde est devenu pour nous, bien-aimés, un désert. Mais que signifie en réalité considérer le monde comme un désert dans lequel on ne trouve pas d'eau, aucune goutte? La réponse est à la fois simple et réjouissante. Frères et sœurs, dans ce monde, comme système de Satan, il n'y a rien. Mais je dis bien, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse offrir quoi que ce soit à la vie nouvelle que nous avons reçue en Christ. Oui. Rien dans le monde ne peut nourrir ou soutenir la vie nouvelle en nous. La vie de Christ, rien. À cet égard, toutes les sources, mais je dis bien toutes les sources de ce monde, sont effectivement desséchées. Mais nous devons les considérer comme desséchées, taries pour nous. Si nous comprenons cette vérité par le cœur, pas par la tête, mais par le cœur, en tout cas nous cesserons d'être affectés en pensant au désert. Nous constaterons plutôt l'exactitude de ce qui vient d'être dit. C'est une vérité qui nous réjouit. Apprenons donc que la vie nouvelle qui nous a été donnée n'est pas plus du monde. N'est pas plus du monde que la source divine dont elle provient. Ils ne trouvèrent point d'eau. Mais c'est précisément ce à quoi nous devions nous attendre ici-bas, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Au lieu de cela, nous nous montrons souvent surpris que les sources auxquelles nous avons bu précédemment, quand nous étions dans le monde, soient taries pour le nouvel homme. Pourtant, toutes les ressources, je dis bien toutes les ressources terrestres, ressemblent à des puits asséchés. Elles ne peuvent en aucune manière aider et soutenir l'homme nouveau, notre homme intérieur qui a été créé selon Dieu. Cela, nous devons en fait l'apprendre par des expériences pratiques et très souvent amères. Nous devons apprendre à marcher les 3 jours dans le désert et à réaliser ainsi la distance que la mort a établie entre nous et le monde. Oui, la mort a établi une distance. La leçon que les Israélites devaient apprendre, alors que nous avons à apprendre nous aussi aujourd'hui, est celle-ci, frères et sœurs, qu'ici-bas, nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu pour chaque goutte d'eau. Je dis bien pour chaque goutte d'eau. Il n'y a absolument rien en nous à quoi nous puissions nous fier. Rien. Nous ne disposons d'aucune ressource en nous-mêmes. Combien nous avons de la peine à l'apprendre. Qu'il nous est difficile de réaliser que nous sommes absolument sans force, donc impuissants. Dieu se sert de telles mises à l'épreuve dans le désert pour nous enlever toute confiance en nous-mêmes. Nous devons nous remettre totalement à lui. À lui. Y a-t-il quelque chose de meilleur dans ce monde que de dépendre entièrement à Dieu? Dieu doit parfois nous montrer ce qui est dans notre cœur pour nous amener à discerner aussi ce qu'il y a dans son cœur pour nous. Nous faisons souvent la même expérience que les Israélites à Mara. Après 3 jours de marche, sans trouver d'eau, ils ont cru avoir atteint enfin l'objet de leur désir et dans l'indépendance même de Dieu, ils ont étendu leurs mains pour se servir. Et quand ensuite ils ont eu ces eaux à leur disposition, ils ont constaté qu'elles étaient amères. Qui d'entre nous n'a pas déjà essayé d'obtenir une chose ou une autre indépendamment de Dieu? Mais c'est nous tous. Mais combien les résultats d'action de notre propre volonté sont amers, amers. Combien les circonstances aussi sont amères quand nous les traversons sans Dieu. Amers, mais vraiment amers. Et le peuple murmura contre Moïse, disant, « Que boirons-nous ?» Ce qui était dans leur cœur. L'incrédulité se manifeste ici, et cet état devrait leur être révélé. Quelques jours seulement s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient chanté avec des cœurs débordants de joie pour louer et célébrer leur rédempteur. Maintenant, voilà, le cantique de la délivrance était subitement arrêté et sur leurs lèvres, on pourrait voir des murmures contre Moïse. Est-ce que c'est possible d'imaginer que Dieu puisse les délivrer en leur faisant traverser la mer Rouge pour les laisser mourir de soif dans un désert? Dieu n'abandonne jamais les objets de son amour. Ce n'est pas d'un manque d'amour de sa part si maintenant les eaux de Mara sont aussi amères. Nous pouvons retenir ici, frères, deux leçons. Quand nous avons à traverser des circonstances semblables, la première est que les eaux amères de Mara ne révèlent pas ce qui est dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que je rencontre des épreuves, des difficultés, que c'est ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est rempli d'amour pour nous. Oui. Ce cœur a été manifesté à un tout autre endroit et d'une manière complètement différente, à la croix de Golgotha et dans la rédemption. C'est ce dont parle le bois que l'Éternel enseigne à Moïse et qui jetait dans les eaux amères, les avait rendues douces. Dieu ne nous conduit pas à Mara pour nous faire douter de son amour. À la croix de Christ, il a manifesté tout son amour, mais vraiment tout son amour envers nous. Romains chapitre 5, verset 8, de sorte que la seule réponse que nous pouvons apporter quand nous sommes à Mara est que nous avons quelque chose à apprendre. Devant une épreuve, voilà la réaction, j'ai quelque chose à apprendre. Et qu'avons-nous à apprendre? C'est la deuxième leçon, que nous dépendons totalement de Dieu pour chaque goutte d'eau, pour tout ce qui rafraîchit notre âme ici-bas. Donc, en elles-mêmes, les épreuves ne sont pas le miroir du cœur de Dieu. Toutefois, si nous introduisons la croix de Christ comme expression suprême de son amour, de l'amour de Dieu dans nos épreuves, nous allons remarquer qu'elles perdent leur amertume. Nous serons ainsi gardés de douter de l'amour de Dieu dans les épreuves. L'épître de Jacques nous enseigne que Dieu ne tente personne, mais il permet des épreuves dans notre vie. Et ces épreuves sont en réalité des tests qui nous permettent d'atteindre des niveaux supérieurs, des tests dans notre marche quotidienne. À l'exemple de Joseph. Joseph qui a affronté en totalité 12 tests. 12 tests dans sa marche vers le sommet pour devenir premier ministre de Pharaon. Exode 47 jusqu'à la fin. C'est son attitude qui doit nous caractériser. L'attitude de Joseph, il n'a jamais murmuré. Il a toujours cherché à se comporter d'une manière qui révèle le caractère de Christ. Bien-aimé, ma prière, c'est qu'il en soit ainsi pour nous tous. Amen.